Chapitre 5. Alors que sœur Margaret s'engageait dans le couloir au sommet de l'escalier de pierre, une servante armée d'un seau et d'une serpillière l'aperçut et tomba aussitôt à genoux. Margaret s'arrêta pour poser une main sur la tête de la femme. « Que la bénédiction du Créateur soit sur sa fille, » dit-elle. La servante releva les yeux et se fendit d'un sourire édenté.
« Merci de votre grâce, ma sœur, et qu'il vous bénisse aussi dans ses œuvres. »
Margaret sourit en regardant la vieille domestique descendre le couloir voûtée par le poids du seau.
« La pauvre, » pensa-t-elle, « être obligée de travailler au milieu de la nuit. »
Mais après tout, elle aussi était debout à cette heure indue. Sa robe tirait inconfortablement sur son épaule. Baissant les yeux, Margaret s'aperçut qu'elle avait fermé de travers les trois boutons du haut. Elle y remédia avant de pousser la lourde porte de chêne et de s'avancer dans les ténèbres. Une sentinelle l'aperçut et courut vers la sœur, qui leva devant sa bouche le livre qu'elle portait pour que l'homme ne voie pas qu'elle bâillait.
« Ma sœur, » dit le garde en s'immobilisant, « où est la dame abbesse? Le prisonnier a beuglé qu'il voulait la voir. J'en ai encore des frissons dans le dos. Où est-elle ? »
Margaret foudroya l'impudent du regard jusqu'à ce qu'il se souvienne des usages et la salue d'une rapide révérence. Ensuite, elle se dirigea vers les remparts, l'homme sur ses talons.
« Il ne suffit pas que le prophète siffle pour que la dame abbesse accourt. Mais il a exigé de la voir en personne. »
Margaret s'arrêta et posa sa main libre sur celle qui tenait le livre.
« Aimeriez-vous frapper à sa porte en pleine nuit pour lui annoncer que le prophète la demande ?»«
Non, ma sœur, » fit l'homme soudain très pâle.
« Il suffit amplement qu'on m'étire du lit pour satisfaire les caprices du prophète. »«
Vous ne savez pas ce qu'il a dit, ma sœur. Il criait et...
« Assez !» grogna Margaret.
« Dois-je vous rappeler que répéter ces paroles vous vaudrait la décapitation ?»«
Je ne m'y risquerai pas, »
souffla le garde en portant les mains à son cou.
« Sauf devant une sœur. »«
Même devant une sœur, vous ne devez pas les répéter. »
« Pardonnez-moi, mais il n'a jamais crié aussi fort. En réalité, j'ai rarement entendu sa voix, sauf quand il appelle une sœur. Ses propos m'ont alarmé. C'est la première fois qu'il profère de telles paroles en ma présence. »
« Il a pu faire passer sa voix à travers les boucliers. Cela arrive de temps en temps. C'est pour ça que ses gardes personnels doivent jurer de ne rien répéter. Quoi que vous ayez entendu, dépêchez-vous de l'oublier, si vous ne voulez pas que nous vous y aidions. »
L'homme hocha la tête, trop terrifié pour parler. Margaret n'aimait pas recourir à la menace, mais il fallait empêcher qu'il raconte n'importe quoi en se saoulant avec ses camarades. Les prophéties n'étaient pas pour le commun des mortels.
« Comment vous nommez-vous, soldat ?»«
Kevin Handelmeyer, ma sœur. »
« Si vous jurez, Kevin, de tenir votre langue jusqu'à votre dernier souffle, je m'occuperai de vous trouver un autre poste. »
« À l'évidence, vous n'êtes pas fait pour celui-là. » Kevin s'agenouilla.
« Le ciel vous bénisse, ma sœur. Je préférerais affronter une horde de barbares du pays sauvage plutôt qu'entendre la voix du prophète. Je promets sur ma vie de garder le secret à jamais. »
« Qu'il en soit ainsi. Retournez à votre poste. À la fin du service, dites au capitaine de la garde que sœur Margaret veut qu'on vous affecte ailleurs. »
Elle posa une main sur la tête du soldat.
« Que la bénédiction du Créateur soit sur son fils. »«
Merci de votre bonté, ma sœur. »
Margaret traversa les remparts jusqu'à la colonnade qui se dressait au bout, descendit un escalier battu par le vent et s'engagea dans le couloir chichement éclairé qui conduisait aux appartements du prophète. Deux gardes flanquaient la porte. Ils s'inclinèrent avec un bel ensemble.
« On m'a dit que le prophète a parlé à travers les boucliers. »«
Vraiment ?» fit un des hommes. « Moi, je n'ai rien remarqué. »
Sans quitter Margaret du regard, il demanda à son compagnon.
« Tu as entendu quelque chose ?»
Le soldat s'appuya sur sa lance et cracha par terre avant de répondre.
« Rien du tout, il est aussi muet qu'un cadavre. »«
Kevin vous a raconté des âneries ?»
demanda le premier garde.
« Il y a longtemps que le prophète n'a pas percé nos boucliers pour dire autre chose que le nom de la sœur qu'il veut voir. »
affirma le deuxième homme.
« Kevin n'avait jamais entendu sa voix, c'est tout. »«
Voulez-vous qu'on s'assure qu'ils n'entendent plus jamais rien et qu'ils ne disent plus rien ?
Ce ne sera pas nécessaire. Il m'a donné sa parole et il sera bientôt muté.
Sa parole ? Grogna le premier garde. Un serment n'est qu'un vulgaire bavardage. L'acier d'une lame serait plus fiable.
Voilà qui est intéressant. Dois-je croire que votre engagement au secret est un bavardage ? Devrions-nous garantir votre discrétion par des moyens plus fiables ? Margaret dévisagea le soldat jusqu'à ce qu'il baisse les yeux.
« Non, ma sœur, mon serment était sincère. »«
J'aime à le penser. Quelqu'un d'autre l'a-t-il entendu crier ?»«
Non. Dès qu'il a braillé à tue-tête pour appeler la dame abbesse, nous avons vérifié qu'il n'y avait personne dans le coin. Après, j'ai posté des gardes devant toutes les issues, puis ordonné qu'on aille chercher une sœur. Décider de réveiller la dame abbesse en pleine nuit n'est pas de mon ressort. »«
Bien raisonné. »
À présent que vous êtes là, nous devrions aller voir les autres.
Le garde eut un regard noir.
Histoire d'être sûr que personne n'a rien entendu.
Tant que vous y êtes, priez pour que le soldat Andelmer soit prudent et ne se brise pas le cou en tombant des créneaux. Car si ça devait arriver, je reviendrai vous voir. Le type grogna désappointé. « Mais si vous l'entendez répéter un mot de ce qu'il a surpris ce soir, appelez immédiatement une sœur. » Dès qu'elle eut passé la porte et se fut engagée dans le couloir intérieur, Margaret sentit les boucliers. Le livre serré contre la poitrine, elle se concentra, cherchant une brèche. Un sourire apparut sur ses lèvres quand elle la découvrit. Une infime distorsion dans le champ de force. Le prophète y travaillait sans doute depuis des années. Les yeux fermés, Margaret ferma la fissure avec un barbillon de pouvoir qui vaudrait un cuisant échec au bonhomme s'il tentait de refaire le même coup. L'ingénuité et l'obstination du prophète l'impressionnaient. Cela dit, se souvint-elle, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire dans la vie. Toutes les lampes brûlaient dans les grands appartements. Des tapisseries décoraient un des murs et le sol était couvert de tapis bleus et jaunes, une spécialité locale. Les étagères de la bibliothèque, à demi vides, des livres ouverts, gisaient un peu partout. Sur les chaises, les sofas, les oreillers, ou en pile près du fauteuil favori du prophète, à côté de la cheminée éteinte. Margaret approcha de l'élégant bureau en bois de rose poli qui occupait tout un côté de la pièce. Prenant place sur le siège rembourré, elle posa son livre sur le lutrin et le feuilleta jusqu'à ce qu'elle trouve une page blanche. Le maître des lieux n'était nulle part en vue. La double porte qui donnait sur le jardin étant ouverte, Margaret supposa qu'il s'y promenait. Ouvrant le tiroir du bureau, elle sortit un encrier, une plume et une petite boîte pleine de sable fin et posa le tout devant le livre des prophéties. Quand elle releva les yeux, elle vit une silhouette se découper sur le seuil de la porte. Vêtue d'une bure noire à capuchon, le prophète la regardait. Immobile, les mains glissées dans ses manches, sa simple présence était au moins aussi impressionnante que sa taille. Margaret retira le bouchon de l'encrier. « Bonsoir, Nathan. » L'homme avança lentement de trois pas pour passer de la pénombre à la lumière. Il abaissa sa capuche, révélant la longue crinière blanche qui cascadait sur ses épaules. À son cou, on apercevait le bord d'un collier en métal. Les muscles de ses mâchoires puissantes se tendirent et ses sourcils neigeux se froncèrent au-dessus de ses yeux bleus azur. Rasé de près, il restait d'une rude beauté, même si c'était le plus vieil homme que Margaret eût jamais connu. Et il était fou allié. Ou rusé au point de vouloir être pris pour un aliéné. La sœur ignorait la réponse à cette question. Comme tout le monde. Quoi qu'il en fût, c'était l'homme le plus dangereux du monde.
« Où est la dame abbesse ? »
demanda-t-il d'une voix grave, menaçante. Margaret s'empara de la plume. « Il est très tard, Nathan. On ne réveillera pas la dame abbesse parce que vous faites un caprice. Toutes les sœurs peuvent rédiger les prophéties. Asseyez-vous et nous nous mettrons au travail. » Nathan approcha du bureau et se campa en face de Margaret.
Pas d'épreuve de force avec moi, ma sœur. C'est important.
Ne jouez pas avec moi non plus, Nathan. Dois-je vous rappeler ce que vous y perdriez? Puisque vous m'avez tiré du lit, finissons-en que je puisse dormir un peu.
Je voulais voir l'abbesse. C'est très grave.
Nathan, il nous reste à interpréter des prophéties qui datent de plusieurs années. Quelle différence si vous me dictez celle-là ou non? L'abbesse la lira demain matin, la semaine prochaine ou dans un an, pour ce que ça change.
Je n'ai pas de prophétie à dicter.
Vous m'avez réveillé pour vous tenir compagnie?
S'étrangla Margaret.
Ça vous dérange?
Demanda Nathan avec un grand sourire.
C'est une nuit merveilleuse. Vous êtes plutôt pas mal dans le genre coincé.
Il inclina malicieusement la tête.
Ça ne vous dit rien?
Bon, puisque vous êtes là et qu'il vous faut une prophétie, voulez-vous entendre parler de votre mort?
Le Créateur me rappellera lui quand il le voudra. Je laisse là entre ses mains.
Nathan acquiesça sans la regarder dans les yeux.
Sœur Margaret, pourriez-vous faire venir une vraie femme ici? À force, je me sens un peu seul.
Nous ne sommes pas là pour vous fournir des catins.
Jadis, en échange des prophéties, on m'envoyait des courtisanes.
Margaret posa la plume sur le bureau avec une lenteur calculée.
La dernière s'est enfuie avant que nous puissions lui parler. Elle était à demi nue et à moitié folle. Personne ne sait comment elle a trompé la vigilance des gardes. Vous aviez pourtant promis de ne pas lui confier de prophétie, Nathan. Promis. Avant qu'on ait pu lui remettre la main dessus, elle a répété vos paroles, qui se sont répandues comme une traînée de poudre, provoquant une guerre civile. 6000 personnes sont mortes à cause de vos bavardages.
Vraiment?
Fit Nathan l'air désolé.
Je l'ignorais.
Margaret prit une grande inspiration, histoire de ne pas exploser.
« Nathan, je vous ai déjà raconté ça 3 fois. »«
Je suis désolé, Margaret. »«
Sœur, Margaret. »«
Une sœur, vous? Vous êtes bien trop séduisante pour ça. Une novice, peut-être. »
Margaret referma le livre, le ramassa et se leva.
« Asseyez-vous, sœur Margaret !»
feula le prophète.
« Vous n'avez rien à me dire, alors je retourne dans mon lit. »«
Ai-je prétendu n'avoir rien à dire? Je n'ai pas de prophétie, c'est tout. »«
Sans vision ni prédiction, qu'auriez-vous donc à me communiquer ?»«
Asseyez-vous si vous voulez le savoir. »
Margaret envisagea d'utiliser son pouvoir. Mais elle jugea qu'il serait plus facile et plus rapide de céder aux caprices du prophète.
« Voilà, je me suis rassise et je vous écoute. »
« Une prophétie a bifurqué, »
murmura Nathan, les yeux écarquillés.
« Quand ?»
s'exclama Margaret en se levant d'un bond.
« Aujourd'hui même. »
« Alors pourquoi m'avez-vous appelé en pleine nuit ?»
Parce que je m'en suis aperçu ce soir.
Et ça ne pouvait pas attendre demain? Ce n'est pas la première fourche que je sache.
C'est vrai, mais il n'y en avait jamais eu comme celle-là.
L'annoncer aux autres n'enchantait guère Margaret. Personne ne serait ravi d'apprendre ça. À part Warren, bien sûr, qui jubilerait à l'idée d'avoir une pièce de plus à mettre en place dans le puzzle des prophéties. Sinon, nul ne se réjouirait, car ça impliquait des années de travail supplémentaire. Certaines prophéties bifurquaient, offrant plusieurs possibilités. Avec les prédictions qui se succédaient sur chaque branche de cette arborescence, on obtenait un fouillis divinatoire dans lequel il devenait impossible de déterminer quel événement se produirait ou non. Quand une de ces prophéties plurivirtuelles se réalisait, une branche se révélant la bonne, on disait qu'une fourche s'était produite. Toutes les prédictions qui se rattachaient à la branche morte devenaient alors de fausses prophéties. Cet enchevêtrement d'augures mensongers remplissait le livre des prophéties d'informations fausses et contradictoires qui ajoutaient à la confusion. Quand une fourche survenait, il fallait traquer dans l'arborescence toutes les mauvaises prédictions et les éliminer. Un travail de titan. Et plus l'événement décisif se produisait en aval de la fourche, plus il devenait difficile de se repérer. Pire encore, on avait du mal à déterminer si deux prédictions liées l'une à l'autre devaient se suivre rapidement ou se réaliser à des milliers d'années d'intervalle. Parfois, la nature même des événements aidait les analystes à les classer dans l'ordre chronologique, mais ce n'était pas systématique. Plus on s'éloignait de la fourche, plus les rapports entre les choses se brouillaient. Il fallait des années pour obtenir un résultat, et encore n'était-il que partiel. À ce jour, Margaret et ses compagnes ne savaient jamais si elles lisaient une vraie prophétie ou la lointaine descendance d'une branche morte. Pour cette raison, certains érudits jugeaient les prophéties peu fiables, voire totalement inutiles. Mais si les sœurs étudiaient une fourche à sa naissance, en distinguant la bonne branche des autres, elles disposeraient d'un guide fiable. Margaret se rassit. La prophétie à fourche est-elle importante?
C'est une prophétie centrale. Aucune n'a plus de valeur. Des décennies. Il ne faudrait pas des années, mais des décennies. Une prophétie centrale avait des ramifications partout.
Margaret en eut le tournis. C'était comme avancer à l'aveuglette. Jusqu'à ce que le fruit pourri soit tombé de la mauvaise branche, il ne pourrait plus se fier à quoi que ce soit. Elle chercha le regard de Nathan.
Vous savez quelle prophétie a eu une fourche?
Je connais la mauvaise branche et la bonne, se rengorgea le prophète, et je sais ce qui se réalisera.
Nous tenons enfin quelque chose, pensa Margaret. Si Nathan pouvait distinguer les branches et définir leur nature, ce seraient des informations d'une grande valeur. Les prophéties n'étant jamais chronologiques, il resterait impossible de suivre simplement une branche, mais il saurait au moins où commencer. Une bonne base, surtout en ayant appris l'existence de la fourche au moment où elle se produisait et pas des années après.
Du bon travail, Nathan. Il sourit comme un enfant félicité par sa mère. Asseyez-vous près de moi et racontez-m'en plus. Le prophète tira une chaise et prit place de l'autre côté du bureau. Il semblait excité, comme un chiot qui s'amuse avec un bâton. Margaret espéra ne pas devoir lui faire mal pour lui arracher son jouet de la gueule. Nathan, dites-moi quelle prophétie est concernée.
Êtes-vous sûr de vouloir le savoir, ma sœur?
Demanda le prophète, l'air plus espiègle que jamais.
Les prophéties sont dangereuses. La dernière fois que j'en ai confié une à une jolie femme, des milliers de gens sont morts. C'est vous-même qui me l'avez appris.
Nathan, je vous en prie, c'est très important.
Je ne me souviens plus exactement des mots,
avoua le vieil homme, soudain mortellement sérieux. Margaret n'en crut rien. Dès qu'il s'agissait de prophétie, Nathan voyait mentalement les paroles comme si elles étaient gravées sur une tablette de pierre. « C'est compréhensible, » dit-elle en posant une main rassurante sur le bras du vieil homme. « Je sais qu'il est difficile de tout mémoriser. Récitez-les du mieux que vous pouvez. »«
Eh bien, voyons ça. »
Il contempla le plafond en se massant le menton entre le pouce et l'index.
La prophétie parle de l'homme de Dara qui attirera l'obscurité sur le monde en recensant les ombres.
Très bien, Nathan. Vous pouvez m'en dire plus?
Il se souvenait sans doute de chaque syllabe, mais il adorait qu'on le supplie.
Cela m'aiderait tellement.
Il la dévisagea un moment, ravi, puis déclama.
Au premier souffle de l'hiver, les ombres recensées fleuriront. Si l'héritier de la vengeance de Dara les recense de la bonne manière, son ombre recouvrira le monde. S'il se trompe, sa vie lui sera confisquée.
Un modèle de prophétie à fourche. La veille, on était le premier jour de l'hiver. Margaret ignorait le sens de cette prédiction, mais elle connaissait ces phrases par cœur. Elle faisait l'objet d'études et de débats incessants entre les sœurs dans les salles des catacombes, et elle se demandait en quelle année cela s'accomplirait. Et quelle direction a pris la prophétie ?
« La pire possible, » dit Nathan sinistre.
« L'ombre de l'homme de Dara nous recouvrira ?» demanda Margaret en jouant nerveusement avec un bouton de sa robe.
« Vous devriez étudier les prophéties plus attentivement, ma sœur. » La suivante dit « Si les forces de la confiscation se déchaînent, le monde sera obscurci par une luxure plus noire encore qui jaillira de la déchirure. Les chances de salut alors seront aussi fines que la lame blanche de celui qui est né dans la vérité. Sœur Margaret, le seul être dont la luxure soit plus noire est le Seigneur de l'anarchie.
« Que la lumière du Créateur nous protège !» murmura Margaret.
« La prophétie ne mentionne nulle part qu'il viendra à notre secours !»
fit Nathan avec un sourire moqueur.
« Si vous cherchez sa protection, il faut suivre la bonne branche de la fourche. C'est ainsi qu'il vous offre une infime chance de vous défendre contre ce qui doit advenir. »
Margaret lissa distraitement les plis de sa robe. « Nathan, j'ignore ce que signifie cette prophétie. Sans connaître son sens, comment suivre la bonne ou la mauvaise fourche? Vous prétendez pouvoir les distinguer. Voulez-vous m'éclairer? Me fournir une prédiction relative à chaque branche afin que nous identifions les deux pistes?
« Sous la domination du Maître, la vengeance exterminera tous ses ennemis. La terreur, la désolation et le désespoir régneront alors sans partage. Cette prédiction l'a conduit à la mauvaise branche. »
Margaret fut un peu rassérénée. La bonne prophétie ne pouvait pas être pire. « Et l'autre branche ?»
Très près de la fourche, sur la bonne piste, voilà ce qui est dit. Parmi tous ceux qui sont nés de la magie pour délivrer la vérité, un seul survivra quand la menace des ténèbres sera dissipée. Alors viendra une pire obscurité, celle des morts. Afin que la vie ait une chance, celle qui est en blanc devra être offerte à son peuple pour lui apporter la joie et la prospérité. »
Margaret compara les deux prophéties. La première semblait assez simple à comprendre. À partir de là, il pourrait suivre la mauvaise branche pendant un temps. La seconde était plus ambiguë, mais l'interpréter serait possible avec un peu de persévérance. En tout cas, elle concernait une inquisitrice, et celle qui est en blanc désignait spécifiquement la mère inquisitrice. « Merci, Nathan. Grâce à vous, il sera facile de suivre la mauvaise bifurcation. Avec la bonne, ce sera plus ardu, mais avec une prophétie pour nous ouvrir la voie, nous devrions nous y retrouver. Il suffira de chercher des prédictions qui s'éloignent chronologiquement de l'événement source. » L'inquisitrice est destinée à apporter le bonheur à son peuple. » Margaret eut un petit sourire. « Ça peut vouloir dire qu'elle se mariera ou quelque chose dans ce genre. » Le prophète la regarda, sillant des yeux, puis renversa la tête en arrière et éclata de rire. Se levant d'un bond, il continua jusqu'à en perdre le souffle. Rouge comme une pivoine, il se tourna alors vers Margaret.
« Tas d'imbéciles pompeuses ! Cette manière dont les sœurs se rengorgent, comme si leurs idioties avaient la moindre importance, et comme si elles savaient ce qu'elles font,
En vous voyant, je pense à des volailles qui caquettent entre elles, persuadées qu'elles comprennent les mathématiques supérieures. Je sème les graines de la prophétie à vos pieds. Stupide poule, vous plantez vos becs dans la poussière et en ramenez simplement des cailloux.
Pour la première fois depuis qu'elle était une sœur, Margaret se sentit minuscule et ignorante.
« Nathan, ça suffit. »«
Tas de crétines !»
cracha le prophète. Il avança sur elle si brusquement qu'elle frissonna. Par réflexe, elle lui expédia une décharge de pouvoir qui le fit tomber à genoux. Le souffle court, il porta une main à sa poitrine. Margaret rappela le pouvoir à elle, désolée d'avoir cédé à la peur.
« Je m'excuse, Nathan, mais vous m'avez effrayé. Ça va ?»
Il saisit le dos de la chaise et se releva péniblement en hochant la tête. Margaret ne bougea pas. Mal à l'aise, elle attendit qu'il récupère. Soudain, il sourit aux anges.
« Je vous ai effrayé, croyez-vous »
lança-t-il.
« Aimeriez-vous avoir peur pour de bon ? Et si je vous montrais une prophétie ? Je ne parle pas de la réciter, mais de vous la faire voir, de découvrir comment elle me parvient. Aucune sœur n'a jamais eu droit à ça. Vous les étudiez, sûr de pouvoir les interpréter, mais vous vous fourvoyez complètement. Elles ne fonctionnent pas comme ça.
Que voulez-vous dire, Nathan ? Elles sont censées prédire des événements, et c'est exactement ce qu'elles font.
« En partie, oui. Elles sont transmises par des gens comme moi, des prophètes qui détiennent le don, et conçues pour être lues et comprises à travers ce don par mes semblables. Ces graines ne sont pas faites pour gaver la volaille dotée de vos ridicules pouvoirs. »
Alors qu'il se redressait de nouveau enveloppé d'une aura d'autorité, Margaret sonda son visage. Elle ne l'avait jamais entendu parler comme ça. Disait-il la vérité ou brodait-il sous le coup de la colère? Car si c'était vrai...
« Nathan, tout ce que vous pouvez me dire ou me montrer me sera d'un grand secours. Nous luttons tous dans le camp du Créateur. Sa cause doit l'emporter. Les forces de celui qui n'a pas de nom tentent de nous réduire au silence. Alors oui, je veux bien que vous me montriez comment vous arrive une prophétie, si c'est possible. »
Le prophète dévisagea Margaret avec une intensité brûlante.
« Comme il vous plaira, ma sœur !»
Il se pencha vers elle, l'air si grave qu'elle faillit en avoir le souffle coupé.
« Plongez vos yeux dans les miens, » dit-il. « Perdez-vous dans mon regard. »
Elle obéit jusqu'à ce que le bleu azur de ses iris envahisse son champ de vision, lui donnant l'impression de contempler un ciel limpide. Elle aurait juré que Nathan la vidait lentement de l'air qu'elle aspirait dans ses poumons.
« Je vais vous répéter la bonne prophétie, mais cette fois vous la verrez telle qu'elle est conçue pour m'apparaître. »
En l'écoutant, Margaret eut le sentiment de partir à la dérive dans un étrange océan.
« Parmi tous ceux qui sont nés de la magie pour délivrer la vérité, un seul survivra quand la menace des ténèbres sera dissipée. »
Les mots moururent et Margaret vit soudain des images défiler dans son esprit. Aspirée par ce vortex, elle quitta le palais et bascula dans l'univers de la prédiction. Elle vit une magnifique femme aux cheveux longs vêtue d'une robe blanche en satin. La mère inquisitrice. Puis elle assista à la mort de ses collègues, exécutés par les quatuors de Dara, et fut submergée d'horreur par ses crimes. Enfin, quand la meilleure amie, la sœur adoptive, de la mère inquisitrice mourut dans ses bras, elle partagea son chagrin et sa rage. Alors elle vit la dernière inquisitrice camper devant l'homme de Dara qui commandait au quatuor. Ce superbe seigneur de blanc vêtu contemplait trois petites boîtes. À sa grande surprise, la première projetait une ombre, la deuxième deux, et la troisième trois. Dessinant des runes dans du sable de sorcier, l'homme en blanc invoquait la magie du royaume des morts. Il s'échina toute la nuit jusqu'à l'aube. Étrangement, quand le soleil se leva, Margaret sut que c'était celui de la veille, le premier jour de l'hiver. Ce qu'elle voyait datait d'hier. Le sorcier avait terminé ses préparatifs. Souriant, il tendit une main et ouvrit la boîte du milieu, celle qui projetait deux ombres. Une chaude lumière jaillit de l'artefact et l'enveloppa. Alors qu'il croyait triompher, la magie de la boîte l'emprisonna et lui arracha la vie. Ayant fait le mauvais choix, il était condamné à livrer son essence même à la puissance qu'il avait prétendu soumettre. Margaret vit ensuite la mère inquisitrice en compagnie de l'homme qu'elle aimait. Elle sentit sa joie à un bonheur que cette femme n'avait jamais éprouvé avant. Le cœur de la sœur s'emplit de la félicité que l'inquisitrice connaissait près de son amoureux, et la scène à laquelle elle assistait se déroulait en ce moment même. L'esprit de Margaret fut soudain emporté dans les tourbillons du temps, et elle vit la guerre et la mort déferler sur le monde. Le gardien du royaume des morts semait la destruction dans celui des vivants avec un plaisir pervers qui manqua à la faire défaillir de terreur. Une nouvelle image explosa dans son esprit. La mère inquisitrice debout sur une estrade au centre d'une foule en liesse. L'événement heureux qui ferait bifurquer la prophétie. Une des virtualités qui devait se réaliser pour que le monde échappe aux ténèbres qui le convoitaient. Influencée par l'humeur joyeuse de la foule, Margaret, de nouveau capable d'espoir, se demanda si l'homme que la mère inquisitrice se préparait à épouser était son bien-aimé. S'agissait-il de la cérémonie censée, selon la prophétie, apporter la joie et la prospérité au peuple de l'inquisitrice? Margaret implora le Créateur qu'il en soit ainsi. Mais quelque chose clochait. L'extase de la sœur s'évanouit et elle eut soudain la chair de poule. Le cœur serré, elle vit que la mère inquisitrice avait les mains liées. L'homme debout près d'elle n'était pas son amoureux, mais un bourreau à la cagoule noire qui brandissait une énorme hache. L'inquiétude de Margaret se transforma en horreur. Une main força l'inquisitrice à s'agenouiller, saisit ses cheveux coupés très courts et plaqua sa tête sur le billot. L'inquisitrice ferma les yeux, sans parvenir à endiguer ses larmes. Margaret voulut prendre une inspiration et n'y parvint pas. Alors que la robe blanche de la condamnée brillait au soleil, la hache au tranchant en forme de croissant s'éleva dans l'air. Tel un jaillissement de lumière mortelle, elle s'abattit et s'enfonça dans le billot. Margaret cria quand la tête de l'inquisitrice tomba dans le panier, sous les applaudissements de la foule. Du sang gicla et souilla la robe blanche lorsque le corps sans tête s'écroula sur les planches de l'échafaud. Une mare rouge se forma sous le cadavre et la populace exulta en voyant le tissu blanc viré au vermillon. Margaret hurla et crut qu'elle allait vomir. Le prophète la rattrapa au moment où elle basculait en avant, déchirée de sanglots, et la serra contre lui comme un père résolu à réconforter sa fille après un cauchemar. « Nathan, est-ce là l'événement qui apportera la joie et la prospérité à son peuple? Cela doit-il arriver pour que notre monde soit sauvé ?»«
Oui. Le long de la bonne branche, presque toutes les prophéties ont une fourche. » Pour que les vivants échappent aux gardiens, il faut que chaque événement emprunte le bon chemin. Dans cette prédiction, les gens doivent se réjouir de la mort de la mère inquisitrice, car l'autre branche conduit aux ténèbres éternelles du royaume des morts. J'ignore pourquoi il en est ainsi.
Margaret sanglota de plus belle, et Nathan la serra très fort contre lui.
« Créateur bien-aimé,
gémit-elle,
aie pitié de ta pauvre enfant, donne-lui de la force. »«
Quand on combat le gardien, la pitié n'existe pas. »«
Nathan, j'ai lu des prophéties qui annonçaient la mort d'une personne, mais ce n'était que des mots. Assister à cette scène m'a blessé jusqu'au plus profond de l'âme. »
Le prophète tapota le dos de sa geôlière.
« Je sais cela, mieux que personne. »
Margaret s'écarta du vieil homme et essuya ses larmes.
« C'est la vraie prophétie qui suit celle qui a bifurqué hier ?»«
Exactement. »
« Et c'est ainsi que vous les recevez toutes ?»«
Oui. Elles viennent toujours à moi de cette manière. » « Je vous ai fait partager ce que je vois. Les mots arrivent en même temps et ils doivent être transcrits fidèlement. Ainsi, ceux qui n'ont pas le droit de connaître les prophéties ne parviennent pas à les interpréter. Les autres, ceux qui sont destinés à savoir, comprennent quand ils lisent les textes. Je n'avais jamais montré une prophétie à quelqu'un. »
Pourquoi avoir dérogé à cette règle ?
Nous affrontons le gardien. Vous deviez être informé du danger.
Nous combattons le gardien depuis toujours.
Mais cette fois-ci, la lutte est différente.
Je dois dire aux autres que vous pouvez leur montrer des images. Il faut que vous nous aidiez à comprendre les prophéties.
Non. Je ne partagerai plus jamais mes visions. Même si on me torture, je ne céderai pas. Cette expérience ne se répétera pas ni avec vous ni avec une autre sœur.
Pourquoi ?
Vous n'êtes pas destiné à voir, mais à lire les prophéties.
N'est-il pas possible de...
Il doit en être ainsi. Sinon, votre pouvoir vous les révélerait. Vous n'êtes pas destiné à les voir. Et ceux qui n'ont pas votre don n'ont pas le droit de les entendre. Vous me l'avez assez souvent répété.
Pourtant, cela nous aiderait.
Souvenez-vous de la fille à qui j'ai parlé. Connaître une prophétie ne l'a pas aidée, et il y a eu ensuite des milliers de victimes. Vous me gardez prisonnier ici pour que mes paroles ne tombent pas dans de mauvaises oreilles. Ma mission est d'incarcérer dans leur ignorance les autres humains, à part les prophètes comme moi. C'est la volonté de celui qui nous a donné le pouvoir. S'il avait voulu que vous sachiez, il aurait ajouté le don à vos capacités, mais il ne l'a pas fait.
Nathan, on vous torturera pour que vous cédiez.
Je ne révélerai rien, quoi qu'on me fasse. « Les sœurs me tueront si ça leur chante, mais elles n'obtiendront rien de moi. »
Il baissa la voix.
« Si vous ne leur dites rien, elles n'essaieront pas. »
Margaret le regarda, le découvrant sous un jour inédit.
De tous les prophètes, c'était le moins franc du collier, et elle n'avait jamais pu lui faire confiance.
Tous les autres leur avaient dit la vérité sur leurs dons et leurs pouvoirs.
Nathan mentait sans cesse, au minimum par omission.
La sœur se demanda ce qu'il savait vraiment et de quoi il était capable.
« J'emporterai dans la tombe ce que vous m'avez montré, Nathan. »«
Merci, mon enfant. »
Certaines sœurs auraient torturé le prophète s'il avait osé les appeler ainsi. Margaret n'était pas du nombre. Elle se leva et lissa sa robe.
« Ce matin... » J'informerai les autres qu'une prophétie a bifurqué, et je leur répéterai celles qui appartiennent à la bonne et à la mauvaise branche. Il leur faudra les interpréter avec les moyens que leur a donné le Créateur.
C'est ainsi que les choses doivent être.
Margaret rangea l'encrier, la plume et la boîte de sable dans le tiroir.
Nathan, pourquoi vouliez-vous voir la dame abbesse?
« Cela non plus, sœur Margaret, ne vous regarde pas. Allez-vous me torturer pour que je vous le révèle ?»
La sœur reprit son livre des prophéties.
« Non, Nathan, vous n'avez rien à craindre. »«
Alors, transmettriez-vous un message à la dame abbesse ?»«
Que voulez-vous que je lui dise ?»
répondit Margaret en essuyant les larmes qui perlaient encore à ses paupières.
Emporterez-vous cela aussi dans votre tombe? Le répéterez-vous seulement à l'abbesse?
Si c'est votre volonté, oui, bien que je ne comprenne pas pourquoi. Vous pouvez vous fier aux sœurs.
Sûrement pas. Margaret, écoutez-moi attentivement. Quand on combat le gardien, il ne faut faire confiance à personne. Je prends des risques en pariant sur votre loyauté et sur celle de l'abbesse. Ne vous fiez à personne, car seuls ceux que vous croirez fidèles pourront vous trahir vraiment.
C'est compris, Nathan. Quel est le message?
Dites à l'abbesse que le caillou est dans la mare.
Pardon? Que signifie
« mon enfant »
coupa le prophète.
« N'avez-vous pas eu assez peur? Ne surestimez pas votre résistance. »
« Sœur Margaret, Nathan, je ne suis pas votre enfant. Veuillez me témoigner le respect qui m'est dû. »
« Pardonnez-moi, sœur Margaret. »
Parfois, le regard de cet homme faisait frissonner son interlocutrice.
« Il y a encore une chose. »
« Laquelle ?»
Nathan tendit une main et écrasa une larme sur la joue de Margaret.
« Je ne sais rien au sujet de votre mort. »
La sœur ne parvint pas à cacher son soulagement.
« Mais je détiens une autre information sur vous, très importante pour votre combat contre le gardien. »
« Si cela peut m'aider à faire régner la lumière du Créateur sur le monde, je vous écoute. »
Le prophète sembla se retirer en lui-même, la regardant soudain de très loin.
« Il viendra un moment, très bientôt, où vous buterez sur un problème et où vous aurez besoin de connaître la réponse à une question. J'ignore laquelle, mais quand cela se produira, venez me voir. » À ce moment-là, je saurai. Cela non plus, ne le répétez à personne.
Merci, Nathan.
Elle posa une main sur les siennes.
Que la bénédiction du Créateur soit sur son fils.
Inutile de dire ça, ma sœur. Je ne veux plus rien recevoir de lui.
Parce que nous vous gardons prisonnier ici?
Il y a différentes sortes de prisons. Pour moi, ces bénédictions sont un cadeau empoisonné. Une seule chose est pire que d'être touché par le Créateur, l'être par le gardien. Et cela, je le refuse.
Je prierai quand même pour vous, Nathan,
dit Margaret en retirant sa main.
Si vous vous souciez autant de moi, libérez-moi.
Désolé, mais je ne peux pas.
Non, vous ne voulez pas.
Croyez ce qui vous chante, mais votre place est ici.
Nathan se détourna et Margaret se dirigea vers la porte.
Ma sœur, m'enverrez-vous une femme pour une ou deux nuits?
La douleur dans la voix du prophète manqua à arracher des larmes à sa geôlière.
Je croyais que ces choses-là n'étaient plus de votre âge.
Vous avez un compagnon, sœur Margaret.
Dit le vieil homme en se tournant vers elle.
La sœur sursauta. Comment savait-il? Non, il ne savait rien, mais il tentait de deviner. Jeune et séduisante, Margaret avait ses admirateurs, et les hommes ne lui étaient pas indifférents. Nathan devait bluffer. Mais aucune sœur ne savait vraiment de quoi il était capable. Le seul sorcier qu'elle ne pouvait pas croire sincère au sujet de ses pouvoirs. Vous écoutez les ragots, Nathan?
« Sœur Margaret, avez-vous prévu à quel moment vous serez trop vieille pour l'amour, y compris pour une nuit de temps en temps? À quel âge précis perd-on le goût d'aimer ?»
Margaret ne répondit pas tout de suite, un peu honteuse.
« J'irai en ville, Nathan, et je vous choisirai une compagne pour quelques jours. » Tant pis si je dois la payer de mes deniers. Je ne puis jurer que vous la trouverez belle, car je ne connais pas vos critères esthétiques, mais elle ne sera pas idiote, et je crois que c'est plus important que vous ne voulez bien l'admettre.
Merci, sœur Margaret.
dit le prophète, une unique larme au coin d'un œil.
Mais vous devez me jurer de ne pas lui confier de prophétie.
Bien sûr, ma sœur. Je vous en donne ma parole de sorcier.
C'est très sérieux, Nathan. Pas question que je sois responsable de la mort d'innocents. Lors des troubles dont je vous parlais, des hommes ont péri, mais aussi des femmes. Je ne supporterai pas d'être impliqué dans de pareilles horreurs.
Même si vous saviez, sœur Margaret, qu'une de ces femmes, si elle avait vécu, aurait eu un fils qui serait devenu un tyran, un monstre qui aurait torturé et massacré des milliers d'innocents, femmes, vieillards et enfants compris. Même si vous aviez pu, ma sœur, en révélant une prophétie, empêcher qu'elle bifurque vers l'horreur la plus absolue.
Nathan, murmura Margaret, êtes-vous en train de me dire que...
Bonne nuit, ma sœur,
coupa le prophète. Il passa la porte et releva sa capuche avant de se replonger dans la solitude de son minuscule jardin.